Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir chers fans et amateurs du ballon rond, bienvenue dans Sporama. Ce soir, le mondial 2022 au Qatar, au lendemain de la défaite du Sénégal contre l'Angleterre 3-0, en huitième de finale du mondial de Qatar 2022. Tous les regards africains sont braqués vers le Maroc face à l'Espagne. Les Lions de l'Atlas doivent battre les Espagnols demain mardi en huitième de finale pour poursuivre leur chemin vers un premier sacre mondial. Le Sénégal promet de revenir plus fort en 2026 et malgré leur exploit contre la France et le Brésil, la Tunisie et le Cameroun n'ont pas pu voir les huitièmes de finale. Nous en parlons dans un instant avec nos consultants sportifs à Doha au Qatar, Amine Birouk. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Nous avons également Élisée Ongpatine qui se trouve au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Amédine Sy et Jules Valentin Ngoué vont nous rejoindre dans un instant. Amine, je vais commencer avec vous. Brésil, Corée du Sud. Le choc vient de débuter avec le retour de Neymar rétabli de son entorse à la cheville droite. Une bonne nouvelle pour le Brésil, mais surtout pour son mondial.
Une bonne nouvelle pour le Brésil dans la mesure où il y avait une Neymar dépendance et cette Neymar dépendance avait peut-être handicapé l'équipe du Brésil qui vient d'ouvrir le score grâce à Vinicius. Vinicius pour l'équipe du Brésil qui prend l'avantage après exactement 6 minutes de jeu. L'entrée en jeu de Neymar va certainement dynamiser l'attaque du Brésil qui avait peiné contre la Suisse lors du deuxième match et qui avait été totalement à côté du sujet contre le Cameroun lors de la dernière rencontre de la phase de groupe. Avec Neymar, le Brésil est l'hyper favori pour gagner la Coupe du Monde. Sans Neymar, ça devient un favori de plus.
Élisée ?
Oui, bien évidemment, puisque vous le savez, le Brésil est pratiquement parmi l'un des favoris, ou pour dire simplement que l'éternel favori à chaque Coupe du Monde, c'est bien sûr le Brésil. Et aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle d'avoir Neymar dans cette équipe, comme l'a dit Amine. Ça pourra redynamiser cette attaque qui a peiné lors de son second match. Et surtout contre le Cameroun, on a vu que ça a été un peu difficile maintenant. C'est la Corée du Sud. C'est vrai que, bon, c'est pas totalement une grande nation du football. C'est vrai que les Coréens étaient demi-finalistes en 2002, mais qui parle du football de haut niveau ne pourra pas dire vraiment que la Corée a un coup de guerre. Attendons, puisque à partir des quarts de finale, là, on pourra parler réellement de la Coupe du Monde.
Amine, vous avez suivi les Croates affronteront vendredi pour une place en demi-finale le vainqueur du match entre le Brésil et la Corée du Sud. On a assisté à une issue inédite depuis le début de cette Coupe du Monde au Qatar. Ça s'est décidé après les tirs au but.
Avec des Croates qui sont devenus un peu les spécialistes de l'exercice. Rappelez-vous, en 2018, ils avaient éliminé le Danemark en huitième et plus tard l'Angleterre en demi-finale et la Russie aussi dans cet exercice favori. Et cet exercice leur a encore réussi face au Japon avec un gardien de but, Livakovic, qui a arrêté 3 tentatives nippones sur 4 au cours d'un match très équilibré où le Japon a eu sa chance en première mi-temps. Il avait même dominé au score avant l'égalisation de Perisic. On a vu la rencontre la plus équilibrée pour l'instant de ces huitièmes de finale. Et finalement, le Japon qui se voyait déjà en haut de l'affiche avec la possibilité enfin d'atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire, qui passe à côté de cet exploit alors que l'aventure pour Modrichenko se poursuit. La Croatie finaliste en 2018 peut rêver, jouer un mauvais tour au vainqueur du match Brésil-Corée, pour l'instant c'est le Brésil, et surtout offrir le meilleur départ possible pour les derniers rescapés de la génération dorée, les Modric, Kovacic, Brozovic ou Perisic.
Je signale que les quatre premiers huitièmes de finale de la compétition se sont décidés avant la fin du temps réglementaire. Nous avons Amédine Si en ligne. Amédine, bonsoir.
À tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amédine, les Lions de la Teranga n'ont pas pu réitérer leur exploit de 2002 lorsque le Sénégal avait atteint les quarts de finale du mondial en Corée du Sud et au Japon. Votre sentiment?
Oui, c'est une déception, hein, parce que on avait beaucoup d'espoir, on avait une génération dorée, hein, puisque cette année, le Sénégal a réussi pour la première fois à remporter la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal a éliminé de fort belle manière, hein, l'Égypte lors de ses barrages de poules. C'est pourquoi tous les Sénégalais et tous ceux qui aiment cette équipe des Lions de la Teranga espéraient voir les Lions faire comme en 2002. Mais malheureusement, l'aventure s'est arrêtée ce dimanche face à une excellente équipe d'Angleterre qui a été supérieure à l'équipe nationale du Sénégal. Je l'ai dit et je le répète, la marche était trop haute face à une équipe d'Angleterre techniquement, tactiquement et physiquement supérieure. La justice commande d'accepter la loi implacable du sport qui veut que quand on tombe sur une équipe supérieure, d'accepter la défaite parce que tout n'a pas été mauvais, hein, mais il faut dire que cette équipe du Sénégal était aussi diminuée, hein, avec les absences des leaders comme Sadio Mané qui a été forfait tout juste avant cette Coupe du Monde. Mais il y a également Kouyaté qui est blessé lors du premier match et Ganagé qui a été suspendu. Donc c'était trop, hein, c'était trop face à une belle équipe d'Angleterre. Donc les Lions sont sortis les armes à la main. Mais il faut le reconnaître que la déception est énorme puisque beaucoup, beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains même pensaient que le Sénégal pouvait aller jusqu'au moins en quart de finale. Mais le sport, c'est comme ça, hein. Des fois, tu gagnes, des fois, tu... Mais si on regarde le bilan, je l'avais dit, lorsqu'on avait gagné l'Équateur, il y avait un peu du mieux pour le Sénégal parce que l'attaque commençait à marquer, mais au niveau de la défense, il y a eu beaucoup d'erreurs puisque le Sénégal a joué 4 matchs, le Sénégal a enregistré 2 victoires et 2 défaites et les Lions ont marqué que 5 buts et encaissé 7. À ce niveau de la compétition, c'est trop. Donc, il faut repartir, travailler pour pouvoir quand même essayer de revenir encore plus fort. Mais la déception est énorme, même si on est fier, puisque le Sénégal a été la première équipe africaine à se qualifier, Eric.
Oui, Medine, entre-temps, le score vient de changer entre le Brésil et la Corée du Sud. Neymar vient de marquer un deuxième but sur un pénalty qu'il a très bien tiré comme il sait le faire. Donc son retour lui portait bonheur. Élisée, vous avez suivi le match Sénégal-Angleterre avec un grand intérêt en Afrique.
Et bien évidemment, la déception est énorme. C'est vrai, le score a été correctionnel, il faut le dire, hein, puisque franchement, la déception est de voir ces Sénégalais jouer ou ouvrir le jeu, j'allais dire, puisque il y avait pas de quoi ouvrir le jeu face à cette équipe anglaise qui était au-dessus de l'équipe sénégalaise. Il faut le dire clairement. Aliou Cissé aurait pu miser sur la force du Sénégal, c'est bien sûr, sur sa forme physique, sur sa condition physique, puisque n'oublions pas que le Sénégal n'avait pas ses meilleurs atouts dans ce match, notamment Sadio Mané, on le sait déjà, et forfait pour ce mondial, notamment au milieu de terrain avec les absences de Dana Gueye, pour cumul de carton et Kouyaté blessé. Donc vous imaginez, donc c'était un moment pour le Sénégal de fermer un peu le jeu, de se battre, pourquoi pas ne pas chercher à se qualifier lors de la séance des tirs au but. Aliou Cissé a trop laissé beaucoup d'espace derrière et ça, les Anglais en ont profité largement, puisque les Anglais étaient largement au-dessus, avouons-le. Et là, les Sénégalais pouvaient jouer autrement et de saisir leur chance. Ce n'est pas été le cas. Dommage pour cette sélection sénégalaise d'une très belle génération qui aurait pu aller très loin, mais en face, il n'y avait plus fort que.
Amédine, le Sénégal promet de revenir plus fort en 2026. Quelles sont les chances que vous donnez au Lion de la Teranga? Est-ce que ce sera une équipe très renforcée?
Oui, si on regarde quand même les joueurs qui étaient sur la liste de cette équipe nationale du Sénégal pour cette Coupe du Monde, bon, on se rend compte qu'il y a de l'avenir. Puisque si on regarde les 26 sur les 26 joueurs convoqués par Alicité, 18 faisaient leur baptême de feu en Coupe du Monde. Donc il n'y a eu que 5 rescapés. Et il y a eu des jeunes que Alicité a sélectionnés pour la première fois qui n'ont pas 22 ans. Je vous parle d'Eliman Diaye, qui a fait une bonne entrée contre le Qatar, qui a été titularisé. Il y a eu Jacobs n'a que 22 ans. Il y a eu Papa Tartar, qui a été élu meilleur jeune du continent. Donc, il y a eu Bamba Diagne, bien qu'il y a eu des problèmes avec Marseille avant le début de la saison. Donc, il y a la relève. À côté de ces jeunes joueurs, petits talents qui ont de l'avenir, il y a également des cadres pour les encadrer. Sadio Mané, s'il revient, il peut encore les accompagner puisque Sadio Mané n'a que 30 ans. Donc on a une équipe. La force de Alicité, c'est ça. Il y a une ouverture au niveau des jeunes, mais il conserve les cadres qui ils sont compétitifs et qui peuvent accompagner l'équipe. Moi, je pense que on doit tirer les leçons de cette Coupe du Monde et savoir que d'abord le Sénégal a un potentiel extraordinaire, ça personne ne peut le nier, mais le potentiel seulement ne suffit pas. Il faut travailler, être humble, comme le dit souvent le sélectionneur Alicité, et travailler, voir dans tous les comportements du jeu les mêmes Sénégalais qui jouent au niveau des championnats relevés et les sélectionnés. Et je pense que le Sénégal pourra quand même partir encore de l'avant, puisque on a gagné une Coupe d'Afrique, mais il y a encore la Coupe d'Afrique qui arrive encore, et pour les éliminatoires, le Sénégal est bien parti pour se qualifier encore une fois. Donc il y a espoir au niveau de cela, Eric.
Et Amine, vous nous entendez, vous avez suivi ce match Sénégal, quelles leçons tirer de cette élimination du Sénégal?
Le bloc défensif du Sénégal était bien en place. Les attaques placées des Anglais s'étaient heurtées à une défense bien organisée. Dès que les Sénégalais ont pris un peu trop de confiance et ont voulu chercher systématiquement à se projeter dans la partie du terrain adverse, les Anglais les ont crucifiés à travers leurs attaques rapides. Bellingham a souvent éliminé ses vis-à-vis et offert des espaces aux attaquants anglais, et deux erreurs, deux buts. La troisième erreur, le coup de grâce, et c'était la fin un peu des rêves des Lions de la Teranga, qui ont souffert également de l'absence de Sadio Mané, qui aurait pu apporter beaucoup plus sur le plan offensif. Il est vrai aussi que les Sénégalais peuvent réclamer un pénalty qui aurait été oublié en route, et surtout taper du poing sur la table par rapport à la tentative de Boulaye Dia qui était repoussée brillamment par Jordan Pickford. L'Angleterre n'a rien volé de sa qualification, mais c'est un peu le Sénégal qui a péché par excès de naïveté. C'est ce que le Maroc devra éviter de faire, ne pas trop se projeter, rester bien couvert sur le plan défensif, ne pas s'emballer si jamais il bénéficie d'un temps fort, parce que de là passera le salut et les chances du dernier représentant africain dans cette Coupe du Monde.
Parlons un peu du Cameroun et de la Tunisie. Les deux pays sont sortis sans toutefois jouer les huitièmes de finale, mais on se souviendra quand même de leur exploit contre la France, champion en titre, et le Brésil qui est favori pour gagner ce mondial. Amine, je reste avec vous. Les deux pays, la Tunisie et le Cameroun, qui sortent quand même avec 4 points au sein de leur groupe.
Si on doit voir globalement l'Afrique par rapport à ses résultats, ce sont les meilleurs résultats dans le... Éric Manoukouza. L'Afrique n'a pas remporté autant de victoires en face de toute la Coupe du Monde. Mais il n'en demeure pas moins que c'était des barreaux d'honneur pour la Tunisie et le Cameroun, parce que leur chance était minime de se qualifier. Et même avec ces victoires, elles ont vu leurs espoirs de passer au second tour décliner au fur et à mesure du déroulement de la rencontre qui se jouait en parallèle. La Tunisie doit construire sur une solide fondation, et la victoire face à la France marquera peut-être le début d'une nouvelle équipe de Tunisie. Et puis le Cameroun, et bien le Cameroun devra dépasser ses éternels problèmes extra-sportifs, parce que à chaque édition de Coupe du Monde, il y a un nouvel épisode de ces télénovelas, c'est la dernière, c'est le feuilleton Onana Rigoberto. C'est un hyper-président qui est à la fois ex-joueur international, ex-star du football, président de la fédération, entraîneur par substitution et peut-être même plus que ça. C'est en tout cas les enseignements à tirer, parce que dans 4 ans, la Coupe du Monde verra 9 représentants africains, voire 10, et il faudra présenter ou proposer plusieurs sélections au-delà du premier tour de la compétition.
Merci Amine pour toutes ces précisions. Nous, Amédine,
oui.
Quelles leçons tirées après le Cameroun et la Tunisie?
Bon, d'abord, ils sont sortis, hein, le Cameroun et la Tunisie sont sortis par la grande porte, parce que battre le Brésil et la France, il fallait le faire et ils l'ont fait. Mais cela nous pousse à avoir des regrets encore. Quand on peut se permettre de battre le Brésil et la France, cela veut dire qu'on pouvait passer, on pouvait passer. Donc on doit respecter les adversaires, prendre match après match, jouer, être motivé. Mais les équipes africaines, c'est comme ça. Quand ils jouent contre de gros cylindres, ils sont motivés, ils sont prêts à faire des exploits. Mais quand ils jouent contre des équipes supposées un peu faibles, mais ils ne se concentrent pas, ils se laissent aller. C'est pourquoi, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Tunisie, ils ne sont pas plus sortis de repos. Je pense qu'ils vont nourrir beaucoup de regrets. Je pense qu'on doit être encore plus sérieux, encore plus audacieux. Les Africains, les équipes africaines doivent être plus audacieuses, parce que quand on a en face une équipe vraiment prenable, on doit le montrer, comme l'Angleterre l'a fait hier face au Sénégal. Mais notre péché, c'est ça. On est très motivé, hyper motivé quand on joue contre de grandes équipes, mais des fois quand on joue contre des équipes supposées faibles, on se laisse faire comme ça. Je pense que c'est vraiment dommage, puisqu'il y avait de la place. Le Cameroun pouvait se qualifier, la Tunisie aussi pouvait se qualifier, même le Ghana pouvait se qualifier. Mais malheureusement, on négocie mal certains matchs, et cela coûte très cher à l'arrivée. Parce que les Africains, ils oublient ça. Hein. Les compétitions comme ça, les matchs de poule, il faut vraiment négocier, bien négocier match après match, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Élisée, vous êtes là, la dernière nation africaine dans ce mondial 2022, rêve d'exploit. C'est le Maroc qui joue contre l'Espagne, un derby du détroit de Gibraltar, comme on peut le dire, qui promet une belle opposition d'hostile demain mardi.
Bien évidemment, et non seulement le derby du détroit de Gibraltar, mais la forte communauté marocaine qui s'est installée du côté du Maroc, puisque c'est une forte colonie marocaine qui est du côté de l'Espagne, vous imaginez. Donc c'est un match qui a un accent particulier pour ces nombreux Marocains qui sont installés du côté du royaume espagnol, vous imaginez. Donc c'est un peu ça. Moi, Eric, il faut le dire, le Maroc a présenté le meilleur football africain dans ce mondial. Il faut être véridique, il faut le dire. Un jeu correct et pas trop s'enflammer, parce que c'est ça qui, en réalité, a éliminé la Tunisie, le Cameroun et bien évidemment le Ghana. L'excès de confiance, vous imaginez, se fait battre par l'Australie et puis le Cameroun qui se fait battre par la Suisse. Vous imaginez, oh, c'est des équipes qui étaient à leur portée. Donc, ils se voient déjà tout beau face à ces sélections. Ils se sont fait éliminer. Maintenant, le Maroc a été très sérieux dans son football. Et ça s'est fait remarquer durant ces trois matchs. Vous avez vu comment la victoire contre la Belgique a été réalisée. Donc, c'est quand même une équipe qui peut prendre au sérieux. Et face aux Essars, Walid Regragui, qui a remplacé le Bosnien, a construit une très belle, un très bon. C'est vrai que moi, personnellement, j'étais contre le retour d'Hakim Ziyech, mais aujourd'hui, il est en train de faire de très belles choses dans cette sélection. Il a apporté son expérience et c'est de ça qu'il s'agit. Comme le dit souvent Rigoberto, cette équipe marocaine a de la valeur à revendre contre les Espagnols, mais le hic ou le problème, ne pas se livrer, ne pas voir déjà que bon, on peut faire jeu égal avec les Espagnols, puisque quoi qu'on dira, l'Espagne est une équipe très forte, avec une très belle génération, des jeunes joueurs qui ont montré de quoi elle est capable durant cette Coupe du Monde. Donc le Maroc doit se méfier et doit jouer sur ses forces et ne doit pas laisser beaucoup d'espace. Nous avons vu le Japon face à ses espoirs. Les Marocains devraient aussi s'en inspirer.
Ahmedine, le Maroc a encaissé un seul but. Et les Lions de l'Atlas sont la meilleure défense du tournoi à égalité avec le Brésil. Qu'est-ce que ferait le Maroc pour tenir un échec d'Espagne demain et se qualifier?
Oui. Il ne faut pas être trop confiant, se dire qu'on va rivaliser avec les Espagnols sur le plan jeune. Donc on connaît les Espagnols, c'est un peu l'FC Barcelone de la belle époque, hein, l'FC Barcelone des Javi et des Iniesta, c'est ça le fond de jeu. Ils vont monopoliser le cuir, donc je pense que le Maroc va jouer bloc bas et essayer d'exploiter ses contres. Puisque le Maroc, et je viens de le dire, c'est la meilleure équipe. Le performance pour le moment, c'est le meilleur représentant africain. Ils jouent sur le plan technique, sur le plan tactique, ils sont très bien organisés. Et puis, ils ont des joueurs de dimension internationale comme Hakim Ziyech, comme Hakimi, qui sont en train de faire un bon tournoi. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut négocier, pouvoir négocier. Quand c'est le temps fort de l'adversaire, souffrir, faire le dos rond après. Essayer de profiter de leur situation pour pouvoir marquer. Et les statistiques leur donnent raison. Hein. Ils ont une excellente défense. Et comme on dit, quand on défend bien dans un match de football, tu as presque 80% de chances de gagner. Parce que quand tu n'encaisses pas, cela veut dire que tu ne dois pas perdre ce match. Surtout qu'on est en ce moment en phase de coupe. Hein. C'est des matchs de coupe. Ça dure 90 minutes ou 120 minutes. Après, il y a la série de tirs au but. Donc, les Marocains peuvent bien négocier ce match. Et moi, je crois dur comme fer que le Maroc peut réaliser l'exploit d'éliminer les Espagnols. C'est possible. Surtout, c'est un derby. Dans un derby, tout reste possible, Eric.
En quelques secondes, Ahmedine, mais la meilleure défense, c'est l'attaque.
Oui, on le dit. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais pas attaque à outrance. Pour attaquer, il faut avoir le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, tu ne peux pas attaquer. Et avec les Espagnols, on sait qu'ils vont confisquer le cuir. Ça, c'est sûr et certain. C'est leur philosophie. Donc, tu ne peux pas rivaliser avec sur ce plan. Donc, chacun doit aller avec ses armes.
Élisée, nous avons une minute avant de mettre fin à cette édition de Sporama. Le jeu de passe de l'Espagne contre l'organisation quasi infaillible du Maroc, qu'est-ce que vous prédisez?
Jouer sur le mental, il faut le dire, puisque en matière de technique, l'Espagne est très forte, il faut le dire, mais nous ne voilons pas la face. Maintenant, le Maroc aussi doit pouvoir gérer cet enfer et cet enfant, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Là, il souffrait, comme l'a dit Ahmedine. Et puis, à la moindre occasion, il faut être réaliste, parce que les occasions seront rares, donc il faudra pouvoir les exploiter au moment opportun.
Merci. Et il y a le Brésil qui vient de marquer un troisième but de Richarlison. Ils sont en train de danser le samba. Merci à Ahmedine Sy, merci Élisée Ongpatine, merci à Amine Birouk pour vos différentes contributions dans Sporama. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Firmin Koyaweda a assuré la mise en onde. Je vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.